enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Premier Samuel, chapitre 17. Et nous débutons ce matin, pour la fin de l'année, novembre, décembre, peut-être une partie de janvier aussi, une nouvelle série de messages intitulé « Vaincre les géants dans nos vies ». Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, chaque pasteur ici à l'Église vous dirait que notre motivation, ce qui brûle dans nos cœurs, ce qui nous presse, ce qui nous pousse, moi ça fait maintenant 23, 24 ans que je suis à temps plein dans l'œuvre de Dieu, et ce qui nous pousse, c'est ce qui nous motive et ce qui nous émerveille, ça ne devient jamais usé, ça devient jamais, il n'y a jamais aucun élément de routine à cela, c'est toujours aussi magnifique, toujours aussi émouvant. Ce qui nous motive, c'est de voir des gens abattre leurs géants, c'est de voir des gens vaincre, s'améliorer, être libérés, être soulagés, trouver ce que Dieu a pour eux, trouver cette nouvelle vie que Dieu a pour eux. Et moi, une de mes sources de motivation, ça a toujours arrivé, mais alors que l'Église grandit, dans les dernières semaines et mois, c'est saisissant le nombre de personnes. Partout moi, où je vais dans Longueuil, je rencontre des gens d'Église et régulièrement, il y a des gens de toutes sortes de places qui viennent me voir. Puis lorsqu'ils me poignent, lorsqu'ils me voient, ils me racontent leur témoignage. Où qu'on soit, ils me racontent leur témoignage et ça m'édifie, ça me fait du bien. À plusieurs endroits, j'ai déjà raconté mes aventures au gym. Moi, sur le bicycle au gym, ça arrive régulièrement que quelqu'un arrive et dit « Pasteur Claude! » Et là, ça me raconte qu'est-ce que Dieu a fait pour eux, ça m'édifie. Il y a toutes sortes de... Dans les dernières semaines, récemment, samedi soir, je vais à la pharmacie, puis j'arrive 5 minutes en retard. J'arrive, et je pensais que c'était ouvert, c'est fermé, et puis j'arrive, il y a un jeune homme qui était debout là, et j'arrive, je dis, c'est fermé. Et le gars, il dit, oui, c'est fermé. Il me regarde, hey, Pasteur Claude! Alors, il se met à me raconter son témoignage. C'est un jeune homme qui sort de la toxicomanie, 5 mois de sobriété, puis il était béni, puis il m'expliquait ça, puis c'était un combat. On parle ensemble. J'étais tellement touché d'entendre ça, puis je viens pour partir. Je dis, écoute, c'est super, merci de me l'avoir partagé. Je viens pour partir. Il dit, non, il dit, allez-vous-en pas. Il dit, ma blonde, elle travaille là. Il dit, je l'attends, là, elle va sortir, là. Il dit, mais qu'elle te voit, il dit, elle va mourir. Il dit, elle vient à une nouvelle vie. Il dit, attends. Et il y a un groupe de tous les employés du PharmaPrix. Ils sortent ensemble. Et puis elle est au milieu d'elle. Et quoi, ça arrive d'abord? Hey, passe Claude! Et c'est vrai, elle a eu l'air de presque mourir. Fait que 30 minutes sur le bord de la pharmacie. Et j'étais tellement touché, tellement encouragé. Peut-être ils sont ici ce matin. Tellement édifié parce qu'il y avait des géants qui tombaient dans toutes sortes de places. Je me souviens d'un dimanche après-midi, on n'avait pas de réunion. Le soir, j'avais mes petits-enfants adoptifs qui étaient chez nous. Puis j'étais au club vidéo, j'avais été chercher des films des enfants. J'étais au club vidéo, puis j'étais en ligne avec mes deux vidéos dans les mains, mes DVD. Puis j'entends une voix, une grosse voix. « Hey, c'était bon un matin. » Une espèce de gaillard en arrière de moi. Ah, j'étais bien touché un matin, c'était super bon. Puis là, j'étais le pasteur en ligne au club vidéo. Fait que là, j'ai montré, regarde mes vidéos que j'ai prises. Je vais montrer que j'étais clean, que j'étais correct. Hier soir, j'étais au Centre Bell avec mon fils quelquefois dans l'année. On réussit à y aller. Puis j'étais au Centre Bell avec mon fils hier soir. J'étais en ligne à me préparer parce qu'il y a quand même toute une tradition qui va avec nos visites au Centre Bell. Alors, j'étais en ligne pour aller chercher 2 pointes de pizza et 2 smoked meat, 2 frites et 2 coke diète, bien sûr. J'étais en ligne, j'attendais mon stock. Et il y en a qui disent, c'est pas bon pour toi, ça, parce que là. Mais moi, je suis sur un plan long terme. Quand j'allais au Centre Bell il y a quelques années, il y avait tout ce que je viens de vous nommer là, puis j'ajoutais 2 Häagen-Dazs par-dessus. Et maintenant, j'ai coupé les Häagen-Dazs. Alors, sur 10 ans, 15 ans, je suis sur un plan d'amélioration. Dites amen, ceux qui sont avec moi. I'm going somewhere with this. Lorsque je vais avoir 68 au Centre Bell, je vais être rendu juste à une frite. Alors, et j'étais en ligne, il y avait des gars, 2-3 personnes devant de moi, mais une gang en arrière de moi, j'étais en ligne, j'attendais pour acheter ma bouffe d'un coup. Pasteur Claude! Je me reviens d'abord. Oh, tu sais, toi, ça se peut pas, t'es ici. T'es avec son fils, un homme, qui était ici ce matin à la première réunion. Il me dit, en tout cas, c'était, puis il me raconte son témoignage. Moi, j'étais fini, notre mariage était éclaté, déchiré, Dieu nous a ramenés ensemble, c'est super. Puis il dit, tu vas parler des géants. Il dit, tu parles des géants. Il dit, quoi tu vas prêcher? Il dit, quel géant tu parles? Ben, j'ai dit, là, je vais plusieurs géants, ça va être sur des mois. Ben, j'ai dit, il va y avoir le géant là, de la tentation, puis le géant de comment gérer notre temps, ou le géant de la solitude, ou le géant de la colère. Il dit, face à Claude, il dit, j'ai toutes. Il dit, c'est pour moi. Il dit, j'ai les toutes. Il était en ligne, j'avais un peu chaud, ben, il y avait toute une ligne. Tout le monde nous écoutait notre conversation. C'était un super moment au Centre Bell. J'aimerais déclarer que vous en ayez un ou que vous en ayez 10, les géants vont tomber cet automne à l'église Nouvelle-Vie. Quelqu'un devrait dire amen. Applaudissez le Dieu qui abat les géants. Nous allons regarder dans les prochaines semaines et mois. Ce matin, c'est un message d'ouverture, ce matin et la semaine prochaine. Et nous allons aller ensemble par la suite, à chaque semaine, dans des géants spécifiques. Et nous allons regarder aux endroits dans la parole de Dieu où le peuple de Dieu a fait face à des géants. Et après 23, 24 ans à servir le Seigneur comme pasteur, je connais les géants qui paralysent les gens. Mais beaucoup plus important, c'est que Dieu connaît vos géants. Et nous allons regarder dans la parole de Dieu. C'est fascinant lorsqu'on va, vous allez découvrir avec moi qu'à chaque fois que le peuple de Dieu faisait face à des géants, il faisait face à des choses dont nous, à laquelle nous faisons face à chaque jour. S'il y a quelqu'un dans votre entourage, dans vos amis, dans votre famille, autour de vous, qui pense que la Bible est un livre d'écrit religieux, qui n'a rien à voir avec notre vie moderne, invitez-le n'importe quel dimanche d'ici la fin de l'année et vous allez voir comment nos défis, ça, à quoi ça, contre quoi nous combattons aujourd'hui, sont les choses que le peuple de Dieu a fait face dans les Écritures et dans la façon et les principes et les clés et les révélations et l'enseignement que Dieu leur a donné pour abattre leurs géants. Il va y avoir des clés de libération puissantes pour nous. Alors, les dimanches matins, certains dimanches soirs, ce n'est pas du parlage, ce n'est pas de la parlotte, ce n'est pas seulement des concepts ou ce n'est pas de la théorie. J'ai absolument foi, absolument confiance que ici, à Nouvelle-Vie, novembre, décembre, janvier, il y a des centaines et milliers d'entre nous qui allons vivre des vraies victoires et des vrais géants vont tomber dans ce lieu au nom de Jésus. On va regarder à plusieurs géants qui assaillent, qui agressent, qui viennent faire souffrir et tiennent captifs des gens et des croyants encore aujourd'hui. Nous allons voir ensemble comment vaincre les géants dans nos vies, des géants comme ceux de la peur. Il y a un message qui va être sur la peur, les angoisses, les inquiétudes. Pour certains, c'est un géant. La culpabilité et la honte, le rejet, la solitude, l'isolement qui est un géant pour plusieurs. Des géants comme qui est commun à chacun d'entre nous. C'est pas des tentations, mais pour plusieurs, des péchés, pour certains, des péchés secrets qui deviennent un géant dans nos vies. La colère, l'amertume, l'envie ou la jalousie, les échecs et le découragement. Un géant dans notre monde moderne pour plusieurs femmes, plusieurs hommes en particulier, le matérialisme et la négligence des choses éternelles peut devenir un géant. Comment conjuguer, comment vivre avec les besoins que nous avons, avec la vie, l'appel normal, les pressions de la vie, à pourvoir à nos familles telles que Dieu nous appelle à le faire, mais comment est-ce qu'on vit avec le matérialisme versus l'appel de Dieu? Le géant de la soif du succès humain au détriment du succès avec Dieu. Géant de l'orgueil ou de l'opinion des autres, des gens pour qui ce que les gens pensent d'eux est tellement devient un géant qui les lie. Le géant comme le doute et l'incrédulité. Le poids du passé ou la perte de l'avenir. Et on va regarder dans les Écritures parce que la parole de Dieu nous enseigne et nous déclare. Et je vous cite 1 Corinthiens 10, 11 qui dit « Car toutes les choses qui leur sont arrivés parlant des textes bibliques, parlant de l'Ancien Testament en particulier, mais de tous les modèles des Écritures. Et toutes ces choses-là leur sont arrivées à titre d'exemple, pour votre enseignement, votre instruction, pour nous avertir et pour avertir ceux qui seront à la fin des siècles qui arrivent. » Et l'apôtre Paul dit que ces géants-là à lesquels ils ont fait face dans les Écritures, les moments où ils faisaient face à des géants, c'est pour ton enseignement. Et c'est pour un enseignement pour l'Église depuis 2000 ans, mais qu'il y aurait un enseignement particulier pour ceux qui pour qui la fin des siècles arrive. C'est une expression biblique pour parler de ceux qui seront là dans la modernité. Nous qui vivons les temps de la fin, les temps de la modernité, Dieu dit, je connais chacun des géants que vous faites à lesquels vous faites face aujourd'hui. Les géants modernes ne me surprennent pas, ne me dépassent pas. Les géants modernes à lesquels vous faites face ne me surprennent pas. Je les connais et en moi, en mon esprit, en mon nom et dans ma parole, j'ai tout ce que vous avez besoin pour abattre vos géants aujourd'hui. Est-ce que vous croyez ça? Alors, on va regarder ensemble à la parole de Dieu dans les prochaines semaines et mois. Et ce matin, nous allons commencer, et chaque dimanche de novembre, c'était une erreur dans le bulletin concernant la semaine prochaine, c'est moi qui apporte la parole dimanche matin prochain. Cette série commence ce matin et on ne manquera pas un dimanche pendant tout le mois de novembre et jusqu'au milieu du mois de décembre, jusqu'au message de Noël et du milieu du mois de décembre. Et ce matin, c'est un message d'introduction important. Et nous allons regarder à David dans 1 Samuel 17. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu dit, voici l'homme qui est selon mon cœur. Et regardez comment il a abattu son géant. Et vous allez découvrir des décisions de fondation, des principes de fondation, à savoir comment vaincre les géants dans nos vies. Alors, nous allons lire, nous allons débuter avec notre texte d'ouverture dans 1 Samuel, chapitre 17, les versets 1 à 11. Et si vous avez vos Bibles, suivez avec moi dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas vos Bibles, les textes vont apparaître à l'écran. 1 Samuel 17. Les Philistins se rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Verset 2, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Héla et se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Verset 3, les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté, et la vallée était entre eux. Un porte-parole sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il y a toutes les descriptions de la grandeur, le poids et tout ça de Goliath que nous allons détailler dans quelques instants. Et nous lisons au verset 8, il s'adressa aux troupes d'Israël et leur cria, « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, le Philistin, et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ou les serviteurs de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons ses serviteurs ou ses esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves, vous serez nos captifs et vous serez à notre service, sous notre main, dans notre esclavage. » Verset 10. Le Philistin ou le géant dit encore, « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Nous allons commencer ce matin, continuer dimanche matin prochain avec trois pensées de fondation. Avant qu'on se mette à adresser différents géants spécifiques, nous allons regarder ensemble ce que nous appelons le combat et la crainte du géant, le champion qui abat les géants, et ce matin, continuant dimanche prochain, le commencement de la conquête du géant. Nous avons une scène qui... une géographie, une topographie qui est là, qui est assez simple et qui est très révélatrice. Il se trouve dans la vallée de Héla. Lorsque je suis allé en Israël, il y a plusieurs sites en Israël où les historiens ne sont pas sûrs quelle est la représentation moderne de ce texte-là dans la Bible. C'est à quel endroit exactement il peut y avoir des débats. Souvent, plusieurs endroits, non, c'était ici, non, c'était là, non, c'était là. Mais en ce qui concerne la vallée d'Héla, il y a une belle unanimité que c'est à cet endroit que ce texte a pris place. Et c'est là qu'on trouve l'endroit aujourd'hui. Et le texte nous décrit quelque chose que vous pouvez visualiser facilement. Il parle d'une montagne, une autre montagne, deux collines et un ravin qui est au milieu. Le peuple d'Israël d'un côté, les enfants de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui croient en Dieu d'un côté, leurs ennemis de l'autre côté. Et ce qui est fascinant lorsque tu le vois, ce qui est surprenant, c'est qu'entre les deux, la vallée a à peine une centaine de mètres. T'sais. Ils étaient proches. Le point est celui-ci. Le géant était dans leur visage. Le géant était là. Tu ne pouvais pas le manquer. Ils étaient tourmentés par quelque chose qui était devant leurs yeux à chaque jour. Et ça parle de plusieurs d'entre vous, plusieurs, chacun d'entre nous, qui a des choses dans nos vies, que si le voile se baissait pendant une seconde, que c'est là, c'est présent. Ça fait partie de mon quotidien. Je peux essayer de l'éviter pendant un moment, mais c'est présent. C'est quelque chose qui me vole, quelque chose qui me nuit, quelque chose qui m'empêche, quelque chose qui me retient. Plusieurs d'entre nous, quelque chose qui m'attriste. C'est un géant qui m'attriste, me révolte, me déçoit, me pousse au découragement. Et il y a toute une description qui est là. Il était énorme et selon les commentaires biblique. Et lorsqu'on était là-bas, il y avait un archéologue juif expert qui parlait, que lui disait que les mesures qui sont là, il devait mesurer entre 7 et 9 pieds, presque 3 mètres, 2 mètres 13 à 2 mètres 60, certains disent jusqu'à 3 mètres, mais entre 7 et 9 pieds, pesait entre 300 et 400 livres avec toute la description qui est là. Et le point était qu'eux étaient dans une guerre physique, une guerre où ils se battaient et où tu vivais, où tu mourais. Et certains d'entre nous, des hommes en particulier, peut-être des dames aussi, ont déjà vécu malheureusement dans leur enfance d'être menacés physiquement, d'avoir peur, de souffrir, d'avoir peur que quelqu'un vous fasse mal. Puis il y a peut-être des hommes qui sont ici, des hommes que je connais leur passé un peu semblable au mien, que vous avez déjà été dans ces moments-là. C'est une peur particulière lorsque tu as peur vraiment. Moi, j'ai eu des moments où je savais que j'étais pour manger toute une volée. J'ai eu des moments où je savais que j'étais pour en manger, j'étais pour souffrir, j'étais pour avoir mal. J'ai eu des moments, moi, dans ma vie, lorsque j'étais plus jeune, où j'ai eu peur qu'on me tue. dessus. Je pensais que le gars, il était pour me tuer. Je me souviens d'un moment où, en arrière d'un bar, j'ai sorti, puis il y avait 3-4 gars qui étaient là, des gars de bicycle, puis il y en a un qui s'en venait sur moi, puis je me suis dit, il va me tuer. Je suis pas capable. Je suis pas capable de m'en sortir. Et de ce moment-là, j'avais eu le tibia cassé, l'os de la joue qui avait rentré dans le nez, des points de suture. En québécois, je n'avais mangé toute une. Et j'étais pas chrétien à l'époque, je connaissais pas la Bible, mais d'instinct, il y avait des versets bibliques que je savais qui étaient vrais. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et que tous ceux qui en ont mangé une disent amen, ceux qui savent de quoi qu'on parle. Le géant dans leur cas représentait une menace physique. Mais le géant, Et puis, là, on parle d'un homme qui était immense. Une photo qu'il y avait à l'écran, ce n'est pas des choses qui sont si aberrantes. On a maintenant des gars de la NBA qui sont dans ces eaux-là, qui sont dans ces grandeurs-là. Des gars qui mesurent 7 pieds 9, des gars qui mesurent 7 pieds 8, des gars qui mesurent 7 pieds 6, des gars qui mesurent... Il y en a qui sont un peu plus petits. On a un gars qui est l'un de mes favoris, c'est Shaquille O'Neal. Lui, il est un peu plus petit, un petit peu plus réduit. Il mesure juste 7 pieds 1. Mais il pèse un bon 400, 380 à 425. Alors, le géant qu'on parle, Goliath, dans les Écritures, mesurait quelque chose comme ça. Certains disent jusqu'à 8 pieds, mais il pesait un 4 à 500 livres. C'était une menace qui était là. Et ce qui est important que vous compreniez, bien au-delà de l'image qui est là, à l'écran d'une violence physique, c'est que le géant des Écritures représente quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, c'est pas quelqu'un qui veut nous faire du mal, qui veut nous frapper ou qui va nous abattre physiquement. Le géant représente beaucoup de choses, par les mesures, par la grandeur, par ce qu'il était. Il représente quelque chose qui est très vivide pour nous, même si vous n'êtes pas menacé physiquement. Le géant représente ce qui est tellement plus grand que nous, qu'on semble sans force devant ça. Le géant représente quelque chose qui est infiniment plus grand, qui semble plus grand que nous. Le géant représente quelque chose qui nous a battus dans le passé. Le géant représente quelque chose qui nous a fait du mal dans le passé, quelque chose que tu as essayé de combattre avant puis tu as perdu. Le géant représente quelque chose qui te fait te sentir petit. Et c'est pas une question de combat physique, il y a toutes sortes d'hommes et de femmes ici, on a tous des sphères dans nos vies. Il y a beaucoup de gens qui sont ici que dans certaines sphères de nos vies, on a un dynamisme, on a une expérience, des gens d'affaires qui sont ici ou des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous avez une expérience de vie, puis dans des domaines de ma vie, moi, je suis confiant, puis je sais où je m'en vais, puis je me sens tellement capable, mais tout à coup, il y a quelque chose, il y a une tragédie, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il y a une maladie qui frappe, il y a un diagnostic de cancer, il y a une tragédie avec mon enfant, il se passe quelque chose dans mon couple, il se passe quelque chose dans ma famille, il se passe quelque chose dans ma vie, il se passe quelque chose dans mon ministère, il se passe quelque chose dans mes finances, à mon travail. Et moi, qui a une si grande confiance, moi qui est capable de faire tellement, moi qui me sens tellement confiant, face à cette chose-là, je me sens tellement petit. Je me sens faible face à ça. Je me sens démuni, je me sens incapable face à cette affaire-là. Le géant représente des choses qui sont présentes dans nos vies et avec lesquelles nous avons, c'est le cœur du message de ce matin, avec lesquelles nous avons la suprême tentation de juste apprendre à vivre avec. De juste dire, moi, juste, je ne veux pas me battre contre ça. Je suis pas capable. J'ai essayé avant. J'ai été défait dans ce domaine-là de ma vie avant. Moi, juste vivre avec. Israël vivait avec un géant qui venait les menacer, qui venait déclarer. La scène, elle est hideuse. Vous avez le peuple du Dieu vivant qui se fait menacer et qui remplit, on a lu le texte, saisi de crainte, saisi d'effroi. Et le géant représente ce qui est plus grand que nous. Le géant, et lorsqu'on pense à ce géant, il y a des choses que nous avons besoin de comprendre, qu'il y avait un passé, il y avait une crainte du géant qui est là. Et il y a un passé à cette crainte. Dans le Nombre, chapitre 13 et 14, un peu plus loin, où nous avons dans l'historique qui avait précédé cette époque dans la vie d'Israël, vous avez Dieu qui appelle son peuple à aller conquérir la terre promise. Et vous vous souviendrez qu'ils avaient envoyé des hommes aller voir à l'avant ce qui se passait dans la terre. On les appelle les espions qui sont allés voir ce qui se passait. Et eux avaient vu les géants. Ils avaient aperçu les géants. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit, ah oui, c'est un pays extraordinaire, mais il y a des géants dans ce pays-là. Ils avaient réussi à troubler Israël. Mais finalement, le peuple s'est élevé avec Caleb, Josué, et d'autres, et on dit non, oui, il y a des géants, mais Dieu est avec nous. Ils ont été au combat, ils ont été conquérir la terre. Josué avait détruit la majorité des villes, mais il avait laissé vivre quelques villes, dont la ville de Gath. Il avait laissé vivre la ville de Gath, et c'est de Gath que maintenant les géants émergeaient pour venir les tourmenter. Il y avait un passé à leur crainte. Ils souffraient en ce moment de géants dont ils avaient hérité. Est-ce que vous me suivez? que parce que Josué et le peuple n'ont pas été vaincre les géants, ont permis à ces géants de demeurer, maintenant, aujourd'hui, ils sont tourmentés. Ça parle de personnes qui sont ici, qui sont chacun d'entre nous, qui souffrons aujourd'hui, et nous avons des géants aujourd'hui dont nous avons hérité. Des choses qui sont dans vos vies, et des gens qui sont ici, que c'est des choses, ça a été même hors de votre contrôle. Des personnes qui sont ici, que c'est parce qu'il y a un mari ou une épouse ou des parents ou un mode de vie dans lequel vous avez grandi, que vous avez hérité des choses en vous-même, vous faites face à une souffrance. Il y a des gens qui sont ici qui font face à un géant de solitude, de douleur, d'avoir été laissé, d'avoir été abandonné. Et c'est quelque chose que vous avez hérité. Eux faisaient face à un Goliath parce qu'il avait été permis de demeurer, puis venait maintenant, plus tard, les tourmenter. C'était un géant qui avait un passé. Il avait un passé à cette crainte. Il avait un passé à cette douleur. Il venait et il est remplissait de crainte. Il y a des gens qui sont ici, certains d'entre vous, que lorsque vous réfléchissez dans vos moments d'humanité, il y a des choses qui sont en vous, des tendances qui sont en vous, des tentations qui sont en vous, des comportements, des réflexes, des instincts qui sont en vous, qui sont contraires aux choses de Dieu, que vous savez que vous avez hérité. Vous n'avez pas juste hérité des cheveux bruns de votre père ou hérité des yeux bruns ou d'être grand ou d'être petit. Il y a des choses que vous avez héritées. Moi, lorsque j'étais jeune croyant, surtout les premières années, c'était une des façons dont l'ennemi va passer le plus proche, dans les premières 1 an, 2 ans, 3 ans maximum de ma vie chrétienne, c'est une des façons dont l'ennemi a presque réussi à m'anéantir, a réussi à juste me faire laisser, me faire abandonner, parce que même si Dieu avait fait des choses miraculeuses en moi, m'avait libéré tellement de choses dans ma vie, il y avait des moments où j'avais des élans avec Dieu dans ces premières années, et je pensais que j'avançais, puis je progressais, puis j'étais confiant, et tout à coup, dans un domaine, dans une sphère, j'avais une réaction de colère, ou une réaction d'un comportement, ou une façon d'agir, qui était tellement comme mon père avait toujours été, et son père avait toujours été, et moi-même j'avais été avant, que lorsque je me retrouvais à faire ça, il y avait tout un monde de tentations qui se fondaient sur moi, qui disaient, tu penses que tu avances, tu penses que tu progresses, mais tu changeras vraiment jamais. J'héritais de géants qui étaient là, dont j'avais hérité du passé. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais te proclamer la parole de Dieu, celui qui a commencé une bonne œuvre en toi est capable de la compléter, est capable de déraciner tout ce qui est de ton passé et de faire de toi quelqu'un de nouveau. Quelqu'un devrait applaudir cette vérité biblique. Il y avait un passé à cette crainte. Ils avaient peur parce que le géant a dit, « Donnez-moi un homme afin qu'on se batte, afin qu'on se batte ensemble. » Et Israël avait dans son passé des moments d'échec, des moments de défaite, des moments où dans cette bataille, ils avaient souffert et ils avaient perdu. Il y avait une peur qui était là, qui est présente dans nos cœurs aujourd'hui face au géant. La peur de perdre le combat. La peur même de se battre. Il y a une pensée magique dans le monde chrétien évangélique moderne qui n'est pas vraie. Il y a des chrétiens qui croient à chaque jour, à chaque année qui devient des 5 ans, des 10 ans et des 20 ans, que le géant un jour va seulement disparaître. Et Dieu n'a pas dit à David, tu te lèves et tu répètes 3 fois cette formule-là et le géant va disparaître. Il a dit, je cherche quelqu'un qui va se lever. Et le géant dit, c'est quelqu'un qui va venir se battre avec nous. La promesse, elle est réelle. Si tu te bats contre moi et que tu me vains et que tu vas abattre le géant, alors là, tu vas avoir toutes les richesses qu'on va décrire dans un instant. Mais il y a dans nos cœurs, face à nos géants, des peurs qui sont humaines. J'ai peur de faillir. J'ai peur de pas réussir. J'ai peur de souffrir. J'ai peur que si j'adresse ceci, si j'essaie de changer ça, tout d'un coup que je réussirai pas. J'ai peur de mes échecs passés. J'ai peur de, même certains d'entre nous ont peur du changement. C'est une caractéristique humaine, il y a une caractéristique humaine qui est saisissante, qui est bouleversante. Mais des gens qui sont pourtant dans des situations qui les font souffrir, ils le savent, qui sont tellement petits, tellement réduits comparés à ce que Dieu aurait pour eux. Mais c'est minable, c'est misérable ce que j'ai là, mais au moins c'est un minable et un misérable que je connais. J'ai peur du changement tout à l'heure. J'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de souffrir. J'ai peur de me battre. Tout à coup que je perds. Tout à coup que je tombe. Tout à coup que... Et là, au cœur de cette peur, il réside une des tentations les plus graves. La tentation juste de vivre avec le géant. De dire, au lieu d'essayer puis que je vais chuter, au lieu de combattre contre ça, je vais juste rester comme ça. Je vais juste rester là. Je veux plaider avec toi ce matin. La voix de Dieu se fait entendre et dit, je veux combattre ton géant avec toi. Je veux te donner un nouveau courage. Je veux que tu te lèves et que tu adresses des géants que tu avais essayé de combattre avant et que tu n'avais pas réussi. Alors tu t'es recroquevillé sur toi-même, mais je t'appelle à te relever encore. Je veux me tenir avec toi et je veux abattre ton géant. Quelqu'un devrait dire oui ce matin. Il y avait un passé. À cette crainte, il y avait aussi un poids. il y avait un poids à cette crainte. Il y avait une espèce de un passé, il y avait aussi un poids, une persistance, j'appellerais ça comme ça, une persistance à cette crainte. Un poids et une persistance. Le géant s'avançait matin et soir. Le géant s'avançait matin et soir. Il se présenta devant eux matin et soir pendant 40 jours. Il n'y a pas juste une fois les menacer. Il se levait le matin avec le géant dans le visage, puis se couchait le soir avec le géant qui les tourmentait. Puis certains d'entre vous comprenez cette pensée. Qu'est-ce que c'est? On a tous vécu des moments où tu te lèves le matin, pendant quelques instants, tu te lèves. Moi, il m'est arrivé des moments dans ma vie où il y avait des géants qui étaient là. Je me souviens d'un moment, il y a plusieurs années, lorsqu'il était tout jeune, un de nos enfants qui avait un problème, une maladie, on savait pas c'était quoi. Et puis ça dégénérait, puis ça semblait aller de pire en pire. Et les médecins ne savaient pas, et les spécialistes qu'on rencontrait ne savaient pas ce qu'il avait. Puis on voyait la situation empirer et empirer et empirer. Puis on était debout presque à chaque nuit face à cette situation-là. Puis ça a duré pendant 8 mois. Et je me souviens comment est-ce que dans toutes sortes d'autres domaines de ma vie, je pouvais être confiant, je pouvais me sentir fort, je pouvais me sentir capable. Mais comment je me sentais misérable, comment je me sentais démuni face à cette situation-là dans ma propre maison. Et vous avez peut-être vécu de vous retrouver que tu te réveilles le matin et puis pendant quelques instants, quelques secondes, tu y penses pas. C'est comme si tu l'as oublié. Et là, il y a comme juste une normalité à ton cœur. Puis là, tout à coup, alors que tu... Juste cette normalité-là qui respire un peu, le géant le matin qui te monte dans le visage, qui te fait penser, gars, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui arrive? Et là, moi, j'allais devant Dieu, je priais le Seigneur, aide-moi, Dieu, puis je me donnais au ministère, puis je me servais toute la journée, puis je faisais tout ce que je pouvais pour aider de tous les côtés. Et parfois, pendant la journée, d'avoir quelques heures où ce que tu te sens mieux, puis tu réussis à penser à d'autres choses, tu réussis à te donner à d'autres choses, et tu arrives le soir, et tu es fatigué, tu veux juste dormir. Et lorsque tu mets ta tête sur l'oreiller, il y a le géant qui te tourmentait le matin, qui revient, et là, tu t'endors, puis le sommeil que tu voudrais avoir, qui pourrait être réparateur, puis te donner les forces physiques nécessaires, t'échappe parce que le géant vient le matin, le géant vient le soir. Bien, il y en a d'entre nous ici qui comprenez cette douleur-là. Vous pensez que ça soit un divorce, que ça soit un échec, que ça soit une maladie, que ça soit un péché, que ça soit une déception. Il y a quelque chose qui est là et vous essayez de le secouer. Puis parfois, vous avez des moments de répit, mais il est là le matin, il est là le soir. Et je veux déclarer par la foi qu'à travers cette série de messages, il va y avoir un remplacement divin. Le géant est là, mais la Bible déclare que du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Et la parole de Dieu nous déclare, qui est semblable à notre Dieu? Il me prend lorsque j'étais faible, il me prend lorsque j'ai connu l'échec, et lui seul peut me donner des forces. Qu'à travers cette série de messages, quelque chose va arriver à ton esprit, que non seulement tu vas te lever avec un géant dans le visage le matin et le soir, mais tu vas te lever avec une confiance que Dieu est là du matin au soir pour abattre ton géant. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, a dit l'apôtre 13. Il ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, un esprit d'amour. Et le texte, la version française dit un esprit de sagesse. Mais lorsque vous allez dans le texte grec, vous réalisez que le mot veut dire, en anglais, ils l'ont traduit « a sound mind ». Et le mot grec parle de solidité, un esprit solide. Un esprit inébranlable, un esprit qui est stable, un esprit qui est des pensées qui sont fortes, qui sont stables, qui sont calmes, qui sont solides, qui sont inébranlables. Oui, le géant vient du matin au soir. Et dans notre humanité, on a connu ces moments où sa venue du matin ou du soir me remplit d'effroi. Mais il y a quelque chose qui est dans l'esprit de Dieu que Dieu veut me donner. Et je crois que cette série de messages va communiquer semaine après semaine, qu'il va y avoir impartation, qu'il va y avoir une communication divine au-delà de l'esprit de peur. Dieu m'a donné un esprit de force. Dieu m'a donné un esprit d'amour. Et Dieu m'a donné un esprit de calme où je ne changerai plus d'idée, où je ne vacillerai plus, où je vais être total et entier dans ma consécration. Moi, je ne quitterai pas jusqu'à ce que le géant tombe dans le nom de Jésus. Et ceux qui veulent cet esprit de divine détermination, voulez-vous dire Amen ce matin? Et voulez-vous applaudir celui qui veut vous le donner? Le combat et la crainte du géant, et nous ouvrons ce matin, et nous allons continuer dimanche matin prochain, avec le champion qui abat le géant. Dieu veut faire de toi, mon frère, ma sœur, monsieur, madame, des couples, des personnes seules, quelqu'un qui va devenir le champion de Dieu, qui va trouver les clés pour le commencement et pour la conquête de chacun de vos géants. Puis on débute cette semaine, on va continuer dimanche prochain. Je vais regarder avec vous à trois marques, trois principes, trois clés, trois caractéristiques du champion qui va abattre le géant. Il est décidé face à ce qui paraît impossible. Il est différent parce qu'il voit les enjeux qui sont invisibles. Et il est debout dans ce qui semble de moindre importance. David va nous enseigner face à son géant. Il va nous enseigner des choses extrêmement importantes. Ce n'est pas juste du contexte historique qu'il y a autour. Il va y avoir des perles et des principes dans ce texte que nous allons lire ensemble, commençant aujourd'hui et continuant dans les prochaines semaines. Vraiment trouver la différence et s'emparer de la différence entre la vision et la victoire. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vision de voir les géants tomber. Mais il y a des clés nécessaires pour que la vision devienne victoire entre le rêve et la réalité, entre ceux qui parlent d'exploits et ceux qui vont posséder leurs exploits. Oui, je veux une vision, mais je veux une vision qui se réalise. Oui, je veux parler des géants qui tombent, mais combien d'entre vous, au-delà d'en parler, je veux posséder la victoire pour voir les géants tomber? Et il y a plusieurs clés. Une des premières, c'est que celui qui va abattre son géant est décidé. Tout est là dans la fin du message, les dernières minutes du message. C'est une divine décision à laquelle l'Esprit de Dieu nous appelle. Tant et aussi longtemps où vous êtes en abnégation, où vous êtes en déni, où vous prétendez que le géant n'est pas là, quelle scène horrible lorsque le géant vient leur secouer le poing au visage et que Israël demeure dans sa résignation, dans son aveuglement, jusqu'à ce qu'il y ait David qui se lève et qui décide, non, ce géant-là va tomber. Et tant aussi longtemps que nous sommes dans cette résignation, tant aussi longtemps que nous sommes dans cette acceptation, dans cette tolérance de géants qui nous font du mal, de choses qui sont présentes dans nos vies, que Dieu ne voudrait jamais qu'on tolère, nous lions les mains de Dieu et l'empêchons d'agir en nous. Mais celui qui va abattre le géant, le champion qui va abattre le géant, est décidé face à ce qui paraît impossible. Et il est différent parce que lui, il voit les enjeux qui sont invisibles. Au verset 24, on nous dit qu'à la vue de cet homme, tout Israël furent devant lui, furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et sa maison va être libérée, va être déchargée de toute dette, de toute taxe pour le reste de sa vie. Il y a ces mots qui sont importants. Le texte nous dit, à la vue de cet homme. Il y a dans notre humanité une capacité d'en venir seulement voir le géant, seulement voir les défaites qui m'ont infligé. Il y en a qui ne voyaient, et tant et aussi longtemps qu'Israël ne voyait que cela, il ne pouvait pas se lever contre le géant. Mais David, le champion de Dieu, est permis par la grâce de Dieu, puis fait une décision, se lève, et il est permis de voir dans l'invisible, et prendre une décision face à ce qui semble impossible. Voulez-vous dire à voix haute, voir l'invisible? Prendre une décision face à ce qui est impossible. C'est le message de ce matin. C'est ça le champion de Dieu. Le champion, la première étape avant qu'on parle de tous les géants spécifiques de nos vies, ça commence avec cette décision de dire, moi, Seigneur, je veux voir dans ce qui est invisible. Eux ne voient à la vue de cet homme, à la vue du géant, ils furent saisis d'une grande crainte. Mais il y a quelque chose qui était au-delà de cela. David pose la question, qu'est-ce qui va arriver à celui qui abattrait ce géant-là? Qu'est-ce qui se passerait avec lui? Et ils disent, et tout le peuple le savait, ils disent, à la vue de, si quelqu'un abattait ce géant, beaucoup de choses qui arriveraient. Il serait libéré, sa maison serait libérée, le roi le couvrerait de bénédictions, les dettes passées seraient effacées et la taxe sur le futur serait enlevée à jamais. Bon, juste les dettes puis la taxe, vous auriez dû dire amen, certains d'entre vous. Moi, je dis amen, en tout cas. On ne parle pas de choses matérielles ici. Tout ce qui a provoqué, ce qui a défié David, c'est qu'au-delà de la vue du géant, il a vu d'autres choses. Il a vu les possibilités, la possibilité en Dieu, qu'alors que le géant tombe, son emprise sur moi est brisée. Et ma maison automatiquement devient couverte d'une bénédiction qui peut juste m'arriver lorsque le géant va tomber. Puis, la dette représentait toutes les choses du passé qui te retiennent aujourd'hui. Je porte ce poids-là. Je ne peux pas faire les choses que je pourrais aujourd'hui parce que je porte ma dette. Et la taxe représente tout ce qui t'empêche pour l'avenir. À chaque fois que je voudrais faire un pas vers l'avenir, la taxe représentait ce que je t'enlève, puis tu travailles avec beaucoup moins, puis t'as encore moins. Puis je voudrais faire des pas, mais je peux pas, je suis taxé. Je peux faire des pas, mais je peux pas, je suis taxé. Je voudrais faire un pas, mais je peux pas, j'ai une dette. Et lorsque des géants tombent, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde spirituel. Lorsque les géants tombent, le roi est permis et rendu libre. Le ciel s'ouvre et les écluses, le roi de gloire vient répandre la bénédiction sur ta maison. Et il y a un lien, il y a une dette du passé qui est effacée. Le passé qui me retenait ne me retient plus. Et il y a un hypothécage sur mon avenir. Il y a quelque chose qui m'empêchait de m'emparer de l'avenir. Il y a une taxe qui disparaît. J'espère que vous êtes avec moi. Mais lorsque le géant tombe, ma maison est libre. Le roi me bénit. La dette est effacée. Et la taxe de l'avenir est enlevée. Et je veux, lorsque je vois ça, je dis, Seigneur, je veux prendre une décision devant toi. Une grande, une décision de se battre, une décision de combattre. Autour de David, il y avait ceux qui parlent, j'arrive à la fin, il y avait ceux qui parlent de grandes victoires, mais ils ne confrontent pas leurs géants. Quand j'ai lu ça cette semaine, je méditais là-dessus. Parce que le peuple répétait les mêmes choses. David a dit, mais qu'est-ce qui pourrait arriver à quelqu'un qui abattrait le géant? Et le peuple, tout le monde le savait, tout le monde était capable de répéter. Le peuple lui répéta, si quelqu'un abattait le géant, ta maison va être libérée, tu ne seras plus son esclave, le roi va te bénir. Il disait, mais le roi donne sa fille à celui qui va l'abattre, le roi va bénir ta maison, la dette va être effacée, les taxes vont être enlevées. Suivez-moi bien. Il y avait tout un peuple qui était capable de te parler de tous les grands réveils qui vont arriver, mais qui affrontaient aucun géant dans leur propre vie. Une des choses qui m'arrive, je le dis avec beaucoup, beaucoup de respect, mais beaucoup d'affection, beaucoup de respect, sans jugement. Une des choses qui m'arrive périodiquement, c'est d'avoir des rencontres avec des frères dans l'œuvre que je connais depuis bien, bien longtemps. À mesure qu'on vieillit, moi, il y a des frères partout au Québec, dans la francophonie. Quand je suis en France récemment, j'ai rencontré des pasteurs maintenant que je connais depuis 20 ans. Au Québec, il y a des pasteurs que je connais depuis 25 ans et plus. J'ai vécu cette expérience dans cette année, ce moment qui m'arrive parfois. J'ai rencontré ce frère que je connais depuis 25 ans, dans l'œuvre de Dieu. Je le respecte et l'estime beaucoup. Et dans les derniers 25 ans, en grande, grande, grande partie, l'œuvre, le ministère qu'il faisait et qu'il fait est demeuré sensiblement la même chose. Et lorsqu'on s'est rencontrés, moi je parlais avec lui il y a 25 ans, et il y a 25 ans, lorsqu'on parlait ensemble, il me disait avec une conviction totale, « Tu sais, le Claude, le réveil va arriver, là. Le réveil s'en vient, le réveil est presque arrivé, le réveil est presque là, là. » Puis, mais que le réveil arrive, tout va changer. C'est pareil comme Israël qui dit, « Ah, mais que le géant tombe, là. Mais que le géant tombe, le ciel va s'ouvrir, la maison va être libre, la bénédiction va venir, le passé va être effacé, la dette va être effacée, on va faire des affaires qu'on n'a jamais faites avant. » Et il y a 25 ans, ce frère me disait, « Lorsque le réveil va venir, ça va être par milliers. Il n'y a plus rien qui va être pareil. Tu vas dire, bouh dans l'église, puis le monde va se convertir, les églises vont se remplir, le stade olympique, puis priez pas, vous l'avez entendu, vous aussi. Le stade olympique va être rempli de gens qui vont accepter le Seigneur, ça va être extraordinaire. » 25 ans plus tard, j'ai rencontré ce frère à la dernière année. Ça fait 25 ans. À un moment donné, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, puis comment ça va, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que Dieu fait, puis qu'est-ce qui se passe dans ton ministère, puis qu'est-ce qui se passe dans l'Église. Puis spontanément, il me dit, oh, le réveil va arriver. Le réveil est presque là, là. Il dit, là, ça va être des milliers, hein, tu sais, hein, ça va être des milliers, des dizaines de milliers. Le réveil va arriver, le réveil va venir. Tu vas voir, le géant va tomber, puis mais que le géant tombe, là, ouf, le ciel va s'ouvrir, la maison va être bénie, les captifs vont être libérés, les passés vont être effacés, la dette va être enlevée, la taxe va être enlevée. Est-ce que vous me suivez? David est entouré de ceux qui étaient capables de tout expliquer qu'est-ce qui se passe quand les géants tombent, mais qui n'étaient pas prêts à changer, pas prêts à se battre, pas prêts à confronter les géants qui étaient là directement devant eux. Et moi, je tremble dans mon esprit, je vous dis ceci, sans jugement pour qui que ce soit. Par la grâce de Dieu, je ne veux pas être de ceux qui vont parler des géants qui tombent. Nous voulons posséder la victoire contre nos géants. Et nous sommes prêts à regarder aux géants dans notre propre vie, dans notre propre église, dans notre propre province, à regarder à ces géants et à dire, comme David, tu viens contre moi, contre le javelot et la lance. Mais qui est donc cet ennemi de Dieu pour qu'il vienne ainsi opposer, attaquer, qu'il vienne ainsi contre les armées du Dieu vivant? Tu viens contre moi avec la lance, tu viens contre moi avec l'épée, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté, et l'Éternel maintenant combattra pour moi. Et la scène avec douceur et amour, je demande aux musiciens de s'approcher, avec douceur et amour, la scène que je veux que vous voyez, qui manque souvent, l'invisible que les gens ne voient pas, c'est que David a été saisi d'une vision spirituelle de comment c'est honteux et comment c'est terrible de voir le peuple du Dieu vivant, d'un Dieu illimité, avoir un géant qui vient les tourmenter, les menacer, les narguer. Comme c'est une honte de les voir se tourner avec crainte et peur, puis parler du jour où les géants tomberont, alors que le géant est là. Et que ce n'est pas seulement contre moi que ce géant-là vient, mais c'est contre le roi des rois. Je suis un enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui a besoin de monter dans ton cœur. Que ce géant-là qui est dans ta vie, Dieu veut le faire tomber. Tu lui appartiens. Tu es son enfant. Tu es dans le bon sens du mot. Ce qui est le plus précieux pour lui. Il t'a racheté. Il ne t'a pas racheté pour que tu passes ta vie à simplement entendre parler de géants qui tombent ailleurs ou à vivre ta vie dans la limitation présente. Le Seigneur t'a appelé afin que tu te lèves. Il va avoir un combat. Tu vas te battre. Je te promets pas un automne sans combat. Mais si tu es prêt à te lever et tu es prêt à dire avec Dieu, le Seigneur va combattre avec moi. Dieu va être là, la puissance de Dieu va être là, la promesse de Dieu va être là, et par la grâce de Dieu, les géants vont tomber. Dites un dernier grand amen dans cette aventure dont on s'engage ensemble afin que les géants puissent tomber. J'ai reçu ce témoignage que je vais lire tout simplement. C'est un domaine d'une vie, c'est un type de géant, c'est pas le seul. Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour cet homme qui m'a écrit. Pas d'admiration dans un sens de le vanter. L'admiration pour le courage. Un homme qui était dans une situation de vie il y a quelques années où ça faisait 30 ans qu'il y avait un géant qui le détruisait. Il avait fait toutes les tentatives humaines possibles pour s'en sortir. Puis ce géant-là semblait juste être plus fort que lui. Puis se retrouver dans le fond de son baril. Quel courage ça prend juste pour se lever une fois de plus. Puis de dire par la grâce puis la force de Dieu, ce géant-là, il va tomber. Alors que je lis son témoignage, ne vous attardez pas au type de difficulté qu'il a. Si le type de difficulté ou le type de géant que lui avait est le vôtre, le même Dieu qui a abattu le géant de David et qui a abattu le géant de mon frère ici, qui était ici ce matin, et qui est capable d'abattre ton géant. Mais élargissez votre cœur ce matin, quel que soit le type de géant qui est dans votre vie, celui qui se lève avec une décision pour l'invisible et celui qui va être différent parce qu'il va se tenir et refuser l'impossible, celui-là va voir son géant tomber. J'ai tellement touché, je le remercie de m'avoir écrit, m'envoyer ça quelques jours après l'Action de grâce cette année, au mois d'octobre. Il écrit, cher pasteur Claude, je vous écris en ce dimanche Action de grâce. Je l'ai reçu quelques jours plus tard, car il faut que je revienne aux pieds du Seigneur et que je lui dise merci. Mon épouse, mes enfants et moi, nous célébrons un anniversaire très spécial. Ça fait 10 ans ce week-end que je suis sobre et que j'ai arrêté de boire et de consommer de la cocaïne. 10 ans. Et c'est à Dieu que je dois ma délivrance. Et juste pour ça, la Bible dit, lorsqu'un membre souffre, nous souffrons ensemble. Mais lorsqu'un membre se réjouit, on se réjouit ensemble. Ce frère était ici ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble la puissance de Dieu? 10 ans. À 46 ans, il dit, de 46 ans à 56 ans ont été les 10 plus belles années de ma vie. J'ai commencé à boire à 12 ans. J'ai jamais arrêté. Mon père et tous ses frères sont des alcooliques. Ma femme m'a marié, en pensant pouvoir me changer, mais je n'ai fait qu'empirer. J'ai fait 8 thérapies entre l'âge de 19 ans et de 46 ans. Je n'ai jamais été dans toutes ces années sobre plus que 6 mois, une fois 6 mois, et quelques fois je réussissais à être sobre pendant 3 mois. J'étais agressif et violent quand je ne buvais pas. À partir de 25 ans, l'âge de 25 ans, la boisson me poussait à la cocaïne, et la cocaïne m'a tout pris. Je perdais tous mes emplois. Je suis électricien de métier, j'accumulais les dettes et j'ai eu un dossier criminel pour ivresse au volant, conduite sans permis. J'étais mélangé avec des gens du crime organisé pour de l'argent que je devais. Ma femme a commencé à venir en nouvelle vie à Pâques en 97. Elle était dépressive et vivait des crises d'angoisse terribles depuis sa jeunesse. Elle était à son pire. Mais c'est avec elle que j'ai vu mon premier miracle. On était séparés depuis 1 an à cause de la boisson. J'étais en train de devenir une loque humaine. Je ne me travaillais plus. Je vivais dans un appartement minable. J'avais des dettes partout. Mon chômage achevait. Je voulais me suicider et je ne voyais plus mes enfants. Arrêtez le film ici. Et regardez à cet homme-là dans cet appartement-là, avec les dettes, avec tout ce qu'il vient de décrire, qui boit et se gèle jour et nuit, qui a des dettes partout, qui, dans sa lettre qui était beaucoup plus longue, raconte qu'il fraudait, il volait sa famille, il volait n'importe qui, juste pour avoir un peu d'argent, pour juste traverser la journée, pour avoir la prochaine ligne, prochaine cuite, sur peut-être des journées complètes. Puis là, il est au bout, là, il est dans son appartement, puis il veut mourir, puis il a honte. Arrêtez le film là Et combien de personnes regarderaient cet homme-là et diraient, ce gars-là va s'en sortir. Ce gars-là va, cet homme-là va avoir 10 ans de sobriété. Cet homme-là va aider d'autres hommes. Cet homme-là, personne, tous les experts humains se laveraient les mains puis diraient, le géant a gagné. Mais cet homme-là ne s'appartient pas à lui-même. Il appartient au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Et si tu tournes vers Dieu, Dieu dit, ton combat devient le mien. Tu dis, oh, mais parce que moi, je suis chrétien de longue date. T'as besoin de te relever encore ce matin avec cette vision que Dieu veut combattre pour toi. Alors, il se retrouve dans son appartement et commence à vivre le témoignage de sa femme qui, elle, a accepté le Seigneur. Après que ma femme a accepté Dieu et a commencé à venir à l'église régulièrement et à remettre chaque journée à Dieu, elle a tellement changé. En 6 mois, je ne le croyais pas. Elle est devenue calme, elle est devenue souriante. Tout le monde qui la connaît ne la reconnaissait plus. Elle a commencé à travailler, ce qu'elle ne faisait plus depuis des années. Elle a eu des promotions à son travail. Elle a vraiment été guérie de la dépression et des crises d'angoisse. Elle dormait maintenant sans somnifère. Elle allait à l'église et elle m'invitait souvent. Plus de médicaments, seulement une paix que je ne comprenais pas. Je suis allé à son baptême et j'ai pleuré tout le long. J'ai avancé en avant et un homme que j'avais jamais vu de ma vie s'est mis à parler et à prier pour moi avec des mots comme s'il me connaissait. C'était en octobre 97 que j'ai été pour la première fois un dimanche matin à l'église Nouvelle-Vie. Et ce que vous m'avez dit m'a donné espoir. J'ai tellement prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Les nouvelles amies de ma femme et leur mari ont prié pour moi. Ils ne me connaissaient même pas, puis ils sont devenus mes amis. Un des hommes m'a offert et j'ai accepté de me soutenir dans mon combat. J'ai commencé à appeler un homme de l'église qui est devenu mon ami et on s'appelait à tous les matins et à tous les soirs. Je lui disais le matin, « Aujourd'hui, je ne boirai pas et je ne consommerai pas. » On priait ensemble et je partais faire ma journée. Le soir, je l'appelais, je lui disais, « Aujourd'hui, j'ai pas bu et j'ai pas consommé. » Les premiers 3 mois ont été durs, mais Dieu m'a donné des forces. Après 6 mois, j'ai commencé à croire que je ne boirais plus jamais. Après 6 mois, j'ai commencé à croire que le géant va tomber. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, je suis resté complètement libre, complètement sobre, et c'est tellement bon. J'ai été baptisé, nous avons une belle famille, on rit ensemble, on est bien ensemble. On fait des voyages, on s'est acheté la maison de nos rêves. On sert le Seigneur à l'église, on aide d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Et je reviens à Dieu pour lui dire merci pour tous les miracles qu'il m'a donnés. Et cet homme-là dit, mon verset préféré est, « Aux hommes, ces choses-là sont impossibles, mais avec Dieu, tout est possible. » Et que ceux qui croient en celui qui abat les géants donnent une main au Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Penchez la tête ensemble ce matin. Je veux faire un appel maintenant ce matin à un peuple entier qui va se lever et dire, je veux me lever contre mon géant. Je ne l'accepte pas. Je ne vivrai pas comme ça. Je veux me lever pour déclarer que même s'il me tourmentait matin et soir, même si j'ai un géant que j'ai hérité du passé, que Dieu va combattre pour moi. Je vais me lever pour dire ce message-là, il est pour moi. Ce géant va tomber. J'avais arrêté de me battre, j'avais presque accepté de vivre avec, ou j'étais sur le bord de lâcher. Mais ce matin, chaque personne ici, même les gens qui ont une vie quand même bien, il y a un géant qui est là et vous le savez. Et Dieu connaît vos géants, des choses que vous connaissez très bien et d'autres que Dieu va vous révéler. Mais chaque couple, chaque personne, chaque homme ou femme dans ce lieu qui est prêt à dire ce matin, je veux me lever. Ce que ce monsieur-là a dit, c'est vrai. Ce que mon frère a dit, c'est vrai. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et pour mon ministère, et pour ma famille, et pour ma vie, et pour mes pensées, et contre la tentation, et contre une chute dans le lieu secret que personne ne connaît, ou contre une tragédie qui m'est arrivée, ou un géant qui me fait peur ou qui m'angoisse, je veux me lever. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Dieu, dans les prochains mois, va me donner un esprit de force, un esprit avec des pensées stables, un esprit d'amour, de sagesse. Et Dieu, je me lèverai pas seulement le matin en voyant le géant. Je vais me lever le matin en disant du lever du soleil jusqu'à son couchant. La fidélité de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Et le géant va tomber dans le nom de Jésus. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, c'est moi, j'ai entendu ce message, puis je dis oui ce matin, je suis avec toi, je suis avec mes frères et sœurs, je veux me lever afin que mon géant puisse tomber. J'aimerais vous demander de vous lever en sa présence et de dire, Seigneur, me voici, mon géant va tomber dans le nom de Jésus. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence.
vois mon désir de te servir et je te donne tous mes rêves. Si vous dites, si tu savais comment je manque de foi, si tu savais comment je manque de confiance, si tu savais comment j'ai même peur, comment les choses, tout m'a dit depuis tellement longtemps que les choses ne pourraient pas changer, eh bien, ce matin, Dieu n'a pas peur de ses sentiments dans votre cœur. Dites-lui, remettez-lui ce matin, levez vos mains et vos cœurs vers lui, dites-lui, Seigneur, me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Vois mon désir de te servir. Vois mon désir, Seigneur. Vois mon désir, Seigneur, d'abattre mon géant. Je te donne tous mes rêves. Je lève mes mains devant toi. Je lève mon cœur devant toi, mon Dieu. Et mon géant va tomber dans le nom de Jésus. Avant même qu'on chante ce matin, pendant quelques instants, ouvrez votre bouche. Levez votre voix à Dieu et parlez à Dieu pendant quelques instants. Des milliers de personnes qui ont entendu ce message ici à l'église Nouvelle Vie en ce début novembre 2007. Ouvrez votre bouche et dites, Seigneur, tu vas abattre mon géant. Seigneur, c'est vrai que tu es là. Seigneur, mon Dieu, je ne l'accepte pas. Je ne le tolère pas. Je ne vivrai pas avec ça. Je ne le vivrai pas. Je ne le permettrai pas, Seigneur. Par ta grâce et par ta force, ravive la foi dans mon cœur. Viens, mon Dieu. Viens, mon Dieu. Et je déclare par la foi que mon géant va tomber. Me voici ensemble.
Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence.
Me voici à tes pieds ensemble. Oh, oh, oh.
Me voici à tes pieds pour te demander une touche.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.